Chapitre 39. Le GMC Yukon transporta Atticus jusqu'au sommet du mont où Eneka avait ses quartiers généraux, dominant Los Angeles. De là, il fut pris en charge comme un chef d'État, accompagné par deux hôtesses sublimes, en plus de ses gardes du corps, avec proposition de rafraîchissement à tous les étages, jusque sur le toit du bâtiment central, où un hélicoptère ultramoderne les attendait. « Où est-ce que vous m'emmenez ?» demanda le flic méfiant. « Ne vous inquiétez pas, » répondit un de ses anges gardiens. « Vous serez de retour dans la soirée. » Lorsque l'appareil décolla et se projeta au-dessus du canyon, Atticus, pris de vertige, ne put s'empêcher de se cramponner à son siège. La cité défilait en dessous. Création des hommes, et pourtant à présent si palpitante d'une vie propre qu'elle semblait leur avoir échappé depuis longtemps. À l'ouest, l'océan paraissait morne en comparaison. Déjà soumis. Avant qu'ils ne franchissent les montagnes, Atticus prit son portable le plus discrètement possible pour informer Hack de ce qu'il en était et de sa dernière position connue. Mieux valait être prudent. L'hélicoptère vira et fonça au nord-est pendant 2 heures. Il se posa finalement au sein d'une forêt sans fin, peau de velours sur des collines abruptes. Un majordome en costume oriental de soie noire et blanc accueillit Atticus à sa sortie et l'entraîna sur une passerelle de bois qui serpentait à travers les arbres. Des lanternes jalonnaient le chemin, déjà allumé malgré le jour encore bien présent, et un parfum de jasmin flottait dans l'air. Un concerto de pépiments variés descendait des troncs imposants, dont la cime se perdait loin au-dessus dans la canopée. 2 villas apparurent enfin, reliées par une vaste terrasse en teck et face à un lac sauvage digne d'une carte postale. Si l'environnement était somptueux, les constructions n'avaient en soi rien de clinquant, mais elles impressionnaient par leur taille démesurée au milieu d'une forêt isolée du monde. Atticus s'était attendu à croiser une armada de serviteurs. Toutefois, hormis le petit chinois qui lui servait de guide, il ne remarqua personne, jusqu'au centre de la terrasse où un salon d'été se dressait face au paysage. Edwin Kowalski était là, debout à l'attendre, environné du chant des oiseaux. Un homme fin, plus petit que ce à quoi Atticus s'attendait, pâle, ni beau ni charismatique, presque banal. Cheveux courts, coupe fonctionnelle, joue glabre qui sentait l'eau de Cologne ou la crème hydratante. Il arborait une chemise blanche, col mao, et un pantalon de lin bleu clair. Aucun bijou, aucune montre. Il devait avoir le même âge, la quarantaine. Et si Atticus l'avait croisé dans un centre commercial, il ne l'aurait probablement même pas remarqué. 3 carillons à vent suspendus aux branches dansaient dans la brise au-dessus des 2 hommes, faisant sonner leurs douces notes d'aluminium ou de bois. Kowalski ne bougea pas et laissa Atticus venir jusqu'à lui. « J'aime beaucoup votre prénom, inspecteur Gore. » Il avait une voix monotone, basse. D'une main, il l'invita à s'asseoir en face de lui. Atticus s'exécuta. « Pourquoi est-ce que je suis là ?» demanda le flic sans embâge. Kowalski le fixait de son regard marron, froid. Aucune expression ne s'affichait sur son visage. Vous avez semé une sacrée panique. Vous êtes prêt à assumer ? Le milliardaire se détourna pour admirer le lac. Assumer quoi ? Tous les maux de la planète parce que je suis un sale riche ? Pour commencer, les morts d'Oscar Ryoto, Ronald Coppelson, Malcolm Huxley et tous ces pauvres bougres de Skid Row. Kowalski poussa un léger soupir et une lueur ressemblant à de la déception passa dans ses yeux. Vous avez lu Nietzsche, Atticus ? Je suppose que non. Nietzsche est célèbre pour sa théorie du surhomme. Laissez-moi deviner. Vous ? Kowalski éluda en enchaînant, sans changer de ton, détachant calmement chaque mot. Il pense que c'est une nécessité pour notre survie. Nous transcender, nous dépasser. Et donc, tous ceux qui n'y parviennent pas sont des sous-hommes, résuma Atticus avec morgue. Indigne. Dont on peut disposer à merci. La notion d'égalité entre les êtres humains est absolument illusoire. un hochet qu'on agite pour les rassurer. Nous ne naissons pas égaux. Certains ont des gènes qui leur donnent un terrain plus favorable pour devenir plus forts, plus vifs d'esprit, plus résistants. D'autres viennent au monde avec des maladies, seront chétifs et fragiles toute leur vie, et peu importe ce que vous ferez, leur quotient intellectuel ne grimpera jamais très haut. Certains sont dans la moyenne, d'autres au-dessus ou en dessous, et vous n'y pourrez rien. Il n'y a pas de règle. C'est le fruit injuste du bouillon de la vie. Notre intelligence ou nos prouesses physiques nous démarquent. Et l'éducation est un labyrinthe, formidable créateur de différences en réalité. Et cela a toujours été ainsi. Des hommes et des femmes inégaux. Même autrefois, lorsque notre naissance définissait notre rang, notre hiérarchie. Un des tubes du plus gros carillon avant heurta son voisin et un son profond, flûté et agréablement grave résonna depuis les hauteurs pour ponctuer la tirade. Qu'est-ce que vous manigancez avec votre fondation? Kowalski se perdit un instant dans la contemplation du lac avant de répondre sans pour autant se tourner vers son interlocuteur. Atteindre le surhomme est une question de survie pour l'humanité. Le transhumanisme repose trop sur sa foi en la science pour nous sauver. Il n'y a qu'une volonté commune de nous affranchir de notre bassesse animale qui nous permettra de répondre aux challenges majeurs qui vont se dresser sur le chemin inéluctable de notre prolifération. Un surhumain de Nietzsche est la réponse effective. Abandonner, renoncer à certains aspects et nous élever. Si nous attendons l'évolution naturelle, comme pour le passage du singe à l'homme, nous serons détruits bien avant. Nietzsche l'avait déjà compris, avant même que la civilisation se confronte au réchauffement climatique, à la surpopulation croissante, à la raréfaction des ressources et à l'omniprésence d'armes de destruction massive. Vous pensez que nous sommes tous condamnés? Le dirigeant fixa de nouveau Atticus. Toujours aucune émotion lisible, au point que l'inspecteur se demanda s'il était capable d'en éprouver réellement. À la vitesse exponentielle où s'enchaînent et croissent les défis? Sans aucun doute. Nous avons enfanté les tourments de notre propre extinction, et nous sommes incapables des sacrifices nécessaires pour les enrayer. Nous préférons accuser les politiciens de ne pas réussir collectivement ce que nous ne faisons déjà pas individuellement. Et notre unique espoir réside en une science qui n'est ni coordonnée, ni financée convenablement, et qui, de toute manière, ne serait qu'un moyen détourné de ne pas assumer nos responsabilités. Et vous là-dedans? Vous êtes ce surhomme, le messie tant attendu. Kowalski détailla son invité un long moment avant de pincer les lèvres comme si sa décision était prise. Inspecteur, laissez agir les forces qui vous dépassent. Ne vous mêlez pas de tout ça. Parce que vous êtes plus riche que tout un chacun, que vous avez une vision, vous estimez que vous n'avez pas de compte à rendre. Vous croyez que le pouvoir autorise à tuer. Le milliardaire secoua imperceptiblement la tête. Non, mais le bénéfice du plus grand nombre, si. Regardez les guerres. Si des dirigeants dans mon genre n'avaient pas pris la décision d'envoyer au front des millions de jeunes, vous parleriez allemand, Atticus. Sauf si vos parents étaient juifs, bien sûr. Le léger rictus de contentement qui ponctua la provocation donna à Atticus envie de vomir. L'indifférence de Kowalski, son port altier, inébranlable, et ses certitudes affichées l'insupportaient. Nous ne sommes pas en guerre. C'est là que vous vous trompez, inspecteur. Nous le sommes. Et c'est une guerre plus dangereuse que toutes celles que l'humanité a engendrées, car c'est sa propre survie qui est en jeu. Croyez-moi, si nous avons été capables d'offrir quelques millions de nos précieux enfants au canon d'une idéologie, fût-ce pour un idéal aussi noble que la liberté, nous ne devrions pas sourciller à l'idée de nous débarrasser d'une poignée pour que la majorité vive. Tout était résumé dans le mot qu'il avait employé. Débarrasser. On ne se débarrasse jamais d'une vie. Qu'est-ce que vous proposez? Demanda Atticus en s'efforçant de dissimuler son dégoût. Le fondateur d'Eneca avala sa salive et scia. Premier signe patent d'une réaction émotionnelle. Mon entreprise œuvre en secret, muée par une volonté inébranlable et une vision que je ne partagerai pas avec vous, Atticus. Vous êtes seulement là pour entendre mon avertissement. Vous êtes intelligent, Alors comprenez où est votre place. Chacun de nous a un devoir qu'il peut accomplir. Votre bonheur à court terme repose sur l'identification et l'acceptation de cette tâche. Ne cherchez pas à vous hisser là où vous n'êtes pas attendu. Vous ne seriez qu'un imposteur, en rupture avec l'harmonie du système. Tout est en place. Tout progresse. Maintenant, renoncez à votre croisade égoïste qui ne pourra que vous nuire. Des desseins supérieurs sont en marche. Faites confiance aux autres. Vous ne pouvez assumer tous les rôles. Atticus se leva. J'ai compris le message, Mr. Kowalski. Il en avait trop supporté. Il n'avait plus rien à faire ici. Kowalski ne lui dirait rien de plus. Le milliardaire ouvrit la main et le majordome réapparut. Je connais le chemin, fit Atticus en s'éloignant sans un signe. Et s'il y avait bien un point sur lequel Edwin Kowalski avait tout faux, c'était sur le rôle qu'Atticus endossait en ce monde. Il n'était pas qu'un flic au service du système et de ses dysfonctionnements. Aussi naïf que cela pouvait paraître, il croyait encore aux valeurs qui l'avaient accompagné adolescent et que continuait de porter le badge qu'il affichait aujourd'hui. Ses souffrances de gamin l'avaient hanté jusqu'à l'obsession. Il incarnait cette justice pour tous, celle-là même qui lui avait tant manqué lorsqu'il était jeune, pour le défendre. Il était un flic au service des hommes et de la vérité. Excité par le vent, les carillons s'agitèrent dans la cime et une mélopée de sons creux envahit la forêt, de plus en plus forte.